Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vous raconte comment, en 1785, une imposture et une escroquerie ont fait de la reine Marie-Antoinette, déjà très impopulaire, une coupable idéale alors qu'elle était innocente. Une manipulation dont la gestion fut également catastrophique et contribua à déconsidérer la monarchie. Le 2 juillet 1785, Marie-Antoinette est de bonne humeur. Elle est en pleine répétition de la pièce de Beaumarchais, « Le barbier de Séville », dans le merveilleux petit théâtre bleu et or de Trianon, construit pour elle par son architecte Richard Mick 5 ans plus tôt. La reine avait été privée des plaisirs du théâtre par sa 3e grossesse. Après sa fille Marie-Thérèse, surnommée Mousseline en 1778, et le dauphin Louis-Joseph en 1781, elle a accouché de Louis-Charles, duc de Normandie, en mars 1785. Remise de ses couches, elle a reconstitué sa troupe théâtrale, dite la troupe des seigneurs, pour Le Barbier de Séville. La première doit avoir lieu le 19 août. Marie-Antoinette interprète Rosine, son beau-frère le comte d'Artois joue Figaro, le duc de Guiche, gendre de Madame de Polignac, incarne Bartolo, et Monsieur de Cruzol, Basile. C'est Vaudreuil, proche ami de la reine, qui interprète le rôle du comte Almaviva. Or, ce matin-là, Beumer, le joaillier de la cour, est annoncé. Il remet à la reine de la part du roi une épaulette et des boucles de diamants. Un précieux cadeau. Tout en lui donnant l'écrin, le joaillier fait passer discrètement une lettre à la reine. Elle veut l'interroger, mais il est déjà reparti. Marie-Antoinette ouvre alors ce billet.
Madame, nous sommes au comble du bonheur d'oser penser que les derniers arrangements qui nous ont été proposés et auxquels nous nous sommes soumis avec zèle et respect, sont une nouvelle preuve de notre soumission et dévouement aux ordres de votre majesté. Et nous avons une vraie satisfaction de penser que la plus belle parure de diamants qui existe servira à la plus grande et à la meilleure des reines.
Marie-Antoinette ne comprend rien aux écrits du joaillier. Mais de quoi s'agit-il ? Beumer ose-t-il lui proposer une nouvelle fois d'acheter l'extraordinaire collier qu'elle a refusé, ainsi que le roi, déjà 2 fois ? La reine est agacée, impatiente de reprendre les répétitions. Imprudemment, elle brûle la lettre avec une bougie comme elle le ferait d'un placet sans importance. Marie-Antoinette a tort. C'est bien de ce collier qu'il s'agit et Beumer croit qu'elle l'a déjà en sa possession. Par son geste, Marie-Antoinette va perdre du temps. Elle aurait dû faire revenir Beumer pour le questionner. La reine est victime d'une terrible escroquerie, mais elle ne le sait pas encore. Pour le comprendre, il faut retourner 4 ans en arrière. En septembre 1781, 2 carrosses se croisent sur la route de Strasbourg à Saverne. Dans le premier se trouve le prince cardinal Louis de Rohan, évêque de Strasbourg, grand aumônier de France, membre de l'Académie française, réputé pour son libertinage. Il appartient à la puissante lignée des Rohan-Soubise, l'une des plus anciennes et des plus illustres familles de France. Dans l'autre carrosse se trouve la marquise de Boulainvilliers et une petite jeune femme blonde aux yeux bleus. Le cardinal reconnaît Madame de Boulainvilliers, une amie de longue date. Les 2 carrosses s'arrêtent. Le cardinal de Rohan s'incline devant la marquise qui lui présente la jeune femme, Madame de Lamotte. Le cardinal, trouvant cette personne à son goût, convie les 2 femmes chez lui au château de Saverne. Louis de Rohan fait donc plus ample connaissance avec la charmante Madame de Lamotte. Sa vie est un véritable roman. Elle descend d'un bâtard d'Henri II, mais depuis des années, sa famille est tombée dans la pauvreté. La jeune femme a mendié sur les chemins dès l'âge de 8 ans. Elle ne doit son salut qu'à sa rencontre avec Madame de Boulainvilliers. Celle-ci, touchée par son histoire, a quand même fait vérifier l'authenticité de sa généalogie. Elle la recueille, l'adopte avant de la placer dans un couvent où elle va recevoir une bonne éducation. En 1780, elle épouse un gendarme du roi nommé Nicolas de Lamotte, issu de la petite noblesse champenoise plutôt désargentée. Sitôt marié, le couple transforme son nom en comte et comtesse de la Motte-Valois. Cette histoire amuse le cardinal de Rohan. S'il n'a pas conté sa propre vie à Jeanne, elle est connue de toute la France. Cet ecclésiastique mondain qui exerce des charges importantes est en fait un grand débauché. C'est lorsqu'il était ambassadeur à Vienne qu'il a totalement ruiné sa réputation. La mère de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse, avait été horriblement choquée par sa conduite. Un jour, rentrant d'une partie de chasse, il s'était laissé aller à rouler dans un fossé avec deux dames. Il était aussi terriblement cancagné et scandalisait les Autrichiens par ses ragots. Dans les salons de Vienne, il s'était même permis de mettre en doute la vertu de la dauphine Marie-Antoinette. Le baron de Bézenval, proche de la reine, explique.
Il est nécessaire qu'on soit instruit de la haine profonde que la reine avait contre le cardinal et qu'il avait si justement méritée, remplissant pendant son ambassade à Vienne ses lettres de choses injurieuses contre elle. Elle ne lui a jamais pardonné, comme il est aisé de le croire.
Le cardinal va prendre le couple Lamothe sous sa protection. Il obtient même pour le mari un poste de garde du corps de monsieur, le comte de Provence, frère du roi. Jeanne devine rapidement les ambitions du prélat. Il aspire à une reconnaissance et à de plus hautes fonctions. Il se rêve en premier ministre du roi, mais sa disgrâce auprès de la reine ne lui laisse aucun espoir. Alors, à partir de 1784, Jeanne de la Motte, fine mouche, va faire croire au cardinal qu'elle est en grande faveur auprès de sa chère amie, la reine, et qu'elle va tout faire pour le réhabiliter dans l'opinion de la souveraine. Au printemps 1784, Madame de Lamothe apporte au cardinal une lettre censée provenir de la reine, mais qui, en réalité, a été écrite sous sa dictée par son amant, un faussaire nommé Retaux de Villette. C'est un premier courrier très encourageant.
Je suis charmée de ne plus vous trouver coupable. Je ne puis encore vous accorder l'audience que vous désirez. Quand les circonstances le permettront, je vous en ferai prévenir. Soyez discret.
Par la suite, Madame de Lamothe fait rédiger d'autres billets par le même faussaire, censés, eux aussi, être de la main de la reine. Le cardinal guette avec impatience de nouvelles missives. Il les conserve toutes précieusement dans un portefeuille rouge. Au passage, Jeanne de Lamothe profite largement de cette correspondance puisque dans certains billets, la reine demande au cardinal de l'argent pour ses aumônes. Puis, des sommes de plus en plus importantes, notamment deux fois 70 000 livres. Le prélat obtempère aussitôt, remettant la somme à Jeanne de Lamothe qui en fait le meilleur usage pour elle et son mari. Ils achètent notamment une maison à Bar-sur-Aube. Le cardinal est persuadé que si la reine lui demande de l'argent, c'est qu'il est réellement rentré en grâce. Toutefois, il commence à s'impatienter se demandant quand la reine lui accordera enfin une première audience. Qu'à cela ne tienne. Madame de Lamothe va arranger cela. Le cardinal croit rencontrer la reine de nuit dans le parc de Versailles. Acculée, Madame de Lamothe fait écrire un nouveau billet par son faussaire. Cette fois, la reine va accorder au cardinal une entrevue secrète le 11 août 1784 à 11h du soir dans le bosquet de Vénus, à deux pas de l'orangerie du château de Versailles. Maintenant, il s'agit de trouver une personne qui ressemble à la reine, tant par la taille et l'allure que par les traits du visage. C'est Monsieur de Lamothe qui se charge de cette délicate mission. Il se rend au jardin du palais royal. Chaque soir, il se promène le long des galeries, il y a de nombreuses femmes aux mœurs légères. On estime leur nombre à 600. C'est au milieu de cet essaim de jolies femmes que Monsieur de Lamothe remarque une personne dont les traits rappellent ceux de la reine. Elle est modiste de son état, mais à l'occasion, elle vend ses charmes. Elle s'appelle Nicole Leguet. Monsieur de Lamothe la teste, puis il lui annonce qu'une grande dame de ses amis va venir la voir. Le soir même, Madame de Lamothe se présente chez Nicole Leguet, lui montre quelques fausses lettres signées de Marie-Antoinette. Madame de Lamothe dit à la jeune femme qu'elle a toute la confiance de la reine. C'est elle qui lui a demandé de trouver quelqu'un qui lui ressemble et qui puisse faire quelque chose qu'on lui expliquera en temps opportun. Elle recevra une forte somme, 15 000 livres. Évidemment, devant une telle aubaine, Nicole accepte. Le 11 août, Madame de Lamothe vient chercher Nicole Leguet. Elle lui explique qu'elle devra jouer le rôle de la reine. Elle remettra simplement à un homme qui se présentera devant elle une lettre et une rose en lui disant « Vous savez ce que cela veut dire. » Pour rassurer la jeune femme, Nicole Leguet lui dit que cette supercherie se fait avec l'assentiment de la reine, qui sera d'ailleurs cachée pas très loin pour assister à la scène. Elle fait revêtir à Nicole une simple robe de gaule blanche, pareille à celle que la reine a l'habitude de porter lorsqu'elle est à Trianon. Elle lui poudre les cheveux et lui accroche une voilette qui dissimule un peu son visage. Monsieur de Lamotte a bien choisi. Nicole Leguet fait une Marie-Antoinette très convaincante. Elle lui explique que désormais, elle s'appelle Mademoiselle d'Oliva, ce qui est l'anagramme de Valois à un S près. Elle glisse un domino sur ses épaules et la conduit dans le parc de Versailles jusqu'au bosquet de Vénus. Sur les terrasses, les attendent Lamotte et le faussaire Villette qui se cachent dans un taillis, prêts à intervenir en cas d'incident. Madame de Lamotte place le sosie de la reine près d'une charmille dans le bosquet de Vénus qu'on appelle aujourd'hui le bosquet de la reine. Au bout de quelques minutes, un homme grand, d'allure aristocratique, s'approche et s'incline devant elle. Tremblante, elle récite sa phrase tout en tendant la rose au cardinal de Rohan, mais elle oublie la lettre. Madame de Lamotte surgit alors en disant « Venez, venez vite !» prétextant l'arrivée imminente de mesdames les comtesses de Provence et d'Artois, les belles-sœurs de la reine. Les Lamotte reconduisent Nicole Leguet à sa voiture. Rohan se retire lui aussi rapidement, persuadé qu'il a rencontré la reine. Il est enchanté. En décembre 1784, Madame de Lamotte apprend par un ami que les joailliers Beumer et Bassange, fournisseurs de la cour, cherchent à vendre un collier exceptionnel. Cela fait plus de 10 ans qu'ils ont décidé de confectionner la plus belle parure que l'on puisse trouver en Europe pour affirmer leur suprématie dans le domaine de la joaillerie. Pendant plusieurs années, ils achètent les plus beaux et les plus gros diamants qui sont sur le marché pour constituer un grand collier à plusieurs rangs composé de 6457 diamants d'un poids total de 2800 carats. C'est un collier dit en esclavage comprenant deux parties. Un tour de cou avec des diamants gros comme des noisettes, d'où partent des festons garnis de pendentifs en poire. La partie inférieure se compose de 4 longs rubans de diamants, dont 2 se croisent sur la poitrine et qui descendent tous jusqu'à la taille. C'est un collier spectaculaire, destiné forcément à une personne de très haut rang. Ils en demandent une somme astronomique, 1 800 000 livres. En confectionnant ce chef-d'œuvre, les Beumer pensaient le proposer à Louis XV pour sa favorite Madame du Barry. Mais Louis XV meurt avant que le collier ne soit achevé. C'est finalement chose faite en 1778. Le roi Louis XVI, ébloui par ce chef-d'œuvre, est prêt à l'offrir à Marie-Antoinette pour la naissance de leur premier enfant tant attendu. Mais la reine le juge alors trop cher et refuse. Les joailliers reviennent à la charge en 1782, lors de la naissance du dauphin. La France est alors engagée dans la guerre d'indépendance américaine. La reine refuse encore en disant « Nous avons plus besoin de vaisseaux que d'un nouveau bijou ». Et puis, la mode a changé. Le grand habit de cour est plus rarement porté. La reine, désormais mère de 2 enfants, préfère des vêtements plus simples que lui confectionne Rose Bertin. Marie-Antoinette porte moins de bijoux, les Beumer sont désespérés. Ils ont bien tenté de vendre leur collier dans toutes les cours d'Europe, mais tout le monde le trouve trop cher. Beumer va revoir la reine une 3e fois, il se jette à ses pieds, la suppliant en joignant les mains et menace d'aller se jeter dans la Seine. La réponse de Marie-Antoinette est cinglante.
« Levez-vous, Beumer, les gens honnêtes n'ont pas besoin de supplier à genoux. J'ai refusé le collier, le roi a voulu me le donner, je l'ai refusé encore. » Ne m'en parlez donc jamais. Tâchez de le diviser, de le vendre, et ne vous noyez pas.
C'est alors, le 29 décembre 1784, que Madame de Lamotte vient voir les joailliers. Jeanne est éblouie par le collier et leur propose d'user de son influence auprès de son amie la reine, pour la convaincre de l'acquérir. En rentrant chez elle, Jeanne de Lamotte dicte à Villette une nouvelle lettre pour le cardinal, dans laquelle la reine lui propose une négociation secrète que Madame de Lamotte va lui expliquer. Celle-ci arrive chez le cardinal avec la lettre et lui raconte que la reine a follement envie d'un magnifique collier qu'elle ne peut acheter elle-même, mais qu'elle a recours à lui pour négocier secrètement l'affaire. Rohan est enchanté mais demande quand même son avis à son ami Cagliostro. Après avoir consulté tous les oracles, le faux mage rend son verdict, la négociation sera un grand succès et le cardinal rentrera en grâce auprès de la reine, il faut accepter. Le 29 janvier 1785, Madame de la Motte remet donc au cardinal l'ordre d'achat, toujours rédigé par le faussaire Villette et signé « Marie-Antoinette de France », ce qui aurait dû alerter le cardinal, car un roi ou une reine ne signe que de leur prénom. Rohan remet la lettre au joaillier et signe le contrat. La somme sera réglée en 2 ans par tranche de 400 000 livres. La première échéance est fixée au 1er août. Quant au collier, il est livré le 1er février au cardinal de Rohan dans un précieux écrin de maroquin rouge. Le prélat se rend immédiatement à Versailles chez Madame de la Motte pour lui confier le collier. Jeanne de la Motte l'assure que le collier sera remis le soir même à Marie-Antoinette. Pendant que le cardinal, très satisfait, regagne Paris, Villette et les époux la Motte commencent à dessertir les diamants. Les premiers sont bradés à Paris, le reste vendu au marché noir à Londres. En quelques jours, il n'y a plus ni diamants ni colliers, mais beaucoup d'argent pour les Lamotte. Lorsque Beumer est venu voir la reine le 10 juillet au théâtre de Trianon, il était persuadé de 2 choses. D'une part, la reine était en possession du collier depuis le 1er février. D'autre part, le cardinal de Rohan allait régler la première échéance de 400 000 livres le 1er août. N'ayant rien vu venir ce jour-là, Beumer se précipite le lendemain chez Madame Campan, première femme de chambre de la reine. Il lui raconte toute l'affaire. La reine lui a acheté le collier par l'intermédiaire du cardinal de Rohan. Il a en sa possession un traité d'achat dûment approuvé et signé par la reine. La première échéance n'a pas été payée. Il a besoin d'argent, il est affolé. Très étonnée, Madame Campan n'imagine pas que la reine ait pu confier une quelconque mission au cardinal de Rohan qu'elle déteste. Madame Campan est néanmoins troublée, mais n'en parlera à la reine que 5 jours plus tard. Le 8 août, elle remet à Marie-Antoinette, toujours en pleine répétition, une lettre explicite des joailliers qui révèle la supercherie. La reine est atterrée. Elle ne connaît pas encore les détails de l'affaire, notamment les manigances de Madame de la Motte, mais elle est convaincue que le cardinal de Rohan a essayé de la compromettre dans une grave machination. Elle prie alors le joaillier de rédiger un mémoire détaillé de tout ce qui s'est passé et se précipite aussitôt chez le roi pour l'informer de cette incroyable histoire. Maintenant, c'est sur le cardinal de Rohan que la foudre va tomber. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de « Au cœur de l'histoire » consacré à l'affaire du collier.
« Au cœur de l'histoire » est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques. L'affaire du collier ou le génie de l'intrigue, par Hélène Delalex, dans Les grandes énigmes de l'histoire, sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, édition Perrin, Le Figaro Histoire, 2020. Histoire d'amour de l'histoire de France, par Guy Breton, tome 10, édition Noir et Blanc, 1965. Évelyne Levé, présentation et commentaire de la correspondance de Marie-Antoinette, 1770-1793, édition Talendier, 2005. Le hameau de la reine, par Jean Descartes, édition Flammarion, 2018. La saga des reines, par Jean Descartes, édition Perrin, 2012.